Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then throw it on the ground.
Bienvenue dans l'épisode 15 de la saison 2 du podcast Les Enfants Vont Bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour traiter d'une question hautement sensible mais nécessaire parce qu'il me semble important d'informer pour réaliser des choix éclairés, particulièrement quand ils concernent des enfants. Je me suis donc tournée vers Maître Duré qui a gentiment accepté de traiter avec moi de la question de la séparation à mon micro. Si la question sentimentale n'est pas à débattre dans cet épisode, tant il est évident que toute séparation est douloureuse pour toutes les parties concernées, en revanche, la question juridique est cruciale à envisager. Vous n'êtes pas sans savoir que la conception actuelle de la loi fragilise nos familles, et précisément les parents sociaux. Le délai de 6 mois qui court pour pouvoir justifier aux yeux de la loi de l'investissement du deuxième parent dans la vie de son enfant, alors même que son engagement dans le projet bébé en lui-même est lié, l'impossibilité de reconnaissance anticipée, la toute-puissance du parent biologique aux yeux des magistrats, tout est réuni pour créer une situation conflictuelle et des drames familiaux. Alors oui, je vous l'accorde, quand on se lance dans un projet d'enfant, on n'envisage pas la séparation, c'est totalement antinomique même. Et ici encore réside une injustice, parce que nous, parents homosexuels et coparents, nous devons réfléchir à la reconnaissance juridique de nos droits afin de choisir comment nous souhaitons concevoir nos enfants. J'espère par cet épisode vous apporter un éclairage conforme à la réalité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Émilie.
Bonjour Constance.
Je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible pour qu'on traite un nouveau thème aujourd'hui autour de la parentalité et de l'homoparentalité plus particulièrement. Je vous refais pas faire une présentation puisque je vais inviter nos auditeurs à aller écouter le premier épisode sur lequel vous intervenez, qui est celui sur la loi bioéthique pour découvrir vos multiples casquettes. Je précise juste que vous êtes donc avocate spécialisée dans les droits de la famille et plus particulièrement dans le droit de la famille homoparentale.
Absolument.
Aujourd'hui, on va aborder un thème qui, on va pas se le mentir, n'est pas très vecteur d'audience et pour lequel on n'a pas trop envie, enfin sur lequel on n'a pas trop envie de se pencher, particulièrement quand on est dans le cadre de la création d'une famille. On va se pencher sur la séparation et surtout sur les enjeux de la séparation, aussi bien dans le cadre d'un couple marié où la filiation a été établie que dans le cadre d'un couple marié dont les filiations n'ont pas été établies. Ou même dans le cadre de couples non mariés. On parlera aussi de la coparentalité, puisque c'est un cas assez particulier.
Tout à fait.
C'est bon pour vous ?
C'est bon pour moi.
Super. Donc, on va commencer par le cas le plus simple de... Si on peut dire ça... Hein,
oui, mais, voilà. Avec voilà. En prenant toutes les personnes possibles.
Voilà, parce que la séparation a des enjeux qui sont assez importants dans tous les cas. On va parler du cas du couple marié.
Oui.
Avec filiation établie. Donc, c'est-à-dire que l'adoption a été prononcée pour les enfants du couple.
Exactement. En fait, c'est le vrai enjeu de la séparation du couple homoparental, puisqu'on est en présence d'enfants, c'est de savoir si la filiation a été établie à l'égard des deux parents, qu'ils soient les deux pères ou les deux mères, ou à l'égard que d'un seul, dans les couples de femmes, mais on l'a déjà évoqué, effectivement, quand l'enfant naît, eh bien, la filiation n'est établie qu'à l'égard que de la maman qui a accouché, donc la mère légale, et il faut passer par la procédure de l'adoption de l'enfant du conjoint. Une fois que cette procédure a été finalisée, que l'adoption a été rendue, eh bien, on revient dans une certaine norme qui fait que effectivement, on est en présence d'une séparation. Alors, soit d'un divorce, soit lorsque le divorce a déjà été prononcé et qu'on revient devant le juge, mais en tout cas, une situation très classique de un enfant à deux parents légaux, les deux parents légaux se séparent, ne sont pas d'accord puisqu'on est devant le juge, et donc le juge va statuer sur eh bien, les modalités d'exercice de l'autorité parentale, c'est-à-dire notamment et principalement quand on parle des enfants, la résidence, éventuellement un droit de visite, et la notion financière qui est la contribution à l'éducation, à l'entretien de l'enfant, ce qu'on appelle communément la pension alimentaire.
Donc là, effectivement, on est dans le cadre d'un couple lambda qui se sépare.
On est dans le cadre d'un couple, exactement. C'est exactement la même procédure. On se retrouve devant le même juge, soit une procédure de divorce, soit un juge aux affaires familiales. Et puis, eh bien, on applique un petit peu les règles classiques, à savoir est-ce qu'on a un accord ou pas, est-ce que quel parent revendique quel type de résidence, quel est l'âge de l'enfant. Enfin, on est vraiment sur des parcours qui sont très, très classiques, donc sur lesquels il n'y a pas de difficulté. J'ai mis un tout petit bémol, mais il est petit, mais il faut quand même le mentionner, c'est que on a encore, alors beaucoup moins qu'il y a quelques années, parce que maintenant la loi commence à être ancienne, elle a été votée il y a 7 ans, donc des couples ont pu divorcer, des familles ont pu se construire et se déconstruire.
Oui, c'est clair.
Il reste encore parfois des mentions dans les décisions qui sont relatives au biologique. Moi, ça m'est arrivé notamment, où effectivement, eh bien, le juge qui doit statuer sur la résidence de l'enfant, une mère souhaite que l'enfant soit avec elle, l'autre mère souhaite que l'enfant soit avec elle, eh bien, il arrive encore, très rarement, mais que l'enfant, la résidence de l'enfant sera fixée au domicile de madame, sa mère biologique. Donc, il ne faut pas imaginer que cette question du biologique qui passionne le droit français soit absolument évacuée quand on est dans cette situation qui est classique. Alors, je le dis et j'embraye derrière en disant qu'il y a évidemment des décisions énormément qui n'y font pas référence. Il y a des parents sociaux qui ont obtenu la résidence de l'enfant, contrairement aux parents biologiques. Donc, il ne faut pas imaginer qu'il y a un grand risque, mais malgré tout, ça dépend aussi des juges, ça dépend de la philosophie, ça dépend de comment les juges voient les choses et qu'il existe encore des petites références qui font penser que la situation n'est pas tout à fait comme les autres.
D'accord. Et est-ce que le fait que l'adoption soit plénière ou simple va limiter cette référence au biologique, puisque logiquement, dans l'adoption plénière, on efface l'acte de naissance, donc le parent biologique n'existe plus.
Exactement, mais pour autant, dans l'acte de naissance de l'enfant post-adoption plénière, il y a malgré tout la référence de savoir la filiation a été établie à l'égard de madame par un jugement d'adoption plénière rendu par tel tribunal. Et de toute façon, quand on va saisir le juge, on n'efface pas non plus l'histoire de l'enfant, c'est-à-dire que quand on saisit le juge, eh bien, madame et madame se sont rencontrées, ont vécu une histoire, de leur union est issu l'enfant, et la plupart du temps, on précise simplement, parce qu'on précise, on doit faire une espèce de rappel des faits de la procédure, eh bien, on rappelle qu'il y a une procédure d'adoption qui a été prononcée. Donc, on ne cherche jamais à effacer l'histoire, parce que finalement, c'est quand même l'histoire de l'enfant. Mais voilà, il peut arriver que sans que ce soit argumenté, bien évidemment, on ne va pas dire « Ah ben oui, bien sûr, c'est madame qui l'a porté, donc c'est avec elle que l'enfant doit être à titre principal », ça n'est jamais dit comme ça, mais ça arrive encore que de temps en temps soit distillée une petite notion tout simplement de la biologie. Fort heureusement, de plus en plus rare.
Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut faire appel de la décision? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que ça sert à quelque chose?
Faire appel d'une décision uniquement sur ce point-là ne sera pas justifié pour une raison simple, c'est que de toute façon, quelle que soit la décision et quels que soient les motifs, la décision s'applique pendant la procédure d'appel, que les procédures d'appel sont des procédures qui sont très longues. Donc on revient 2 ans plus tard en disant « Mais souvenez-vous, la résidence a été fixée parce que c'est écrit que… » Et in fine, on s'intéressera toujours de savoir quelle est la situation de l'enfant, quelle est la situation des parents. Et ça n'est pas forcément ce point-là qui sera le plus fondamental et celui qui permettra au juge de juger à l'instant T. Il faut faire appel si la décision, on estime qu'elle a été mal rendue. Ça en fait bien sûr partie, mais C'est pas forcément uniquement sur ce point-là qu'il faut interjeter appel d'une décision.
Sur cette configuration-là, finalement, on est sur un cas sensiblement similaire à un couple hétérosexuel, hormis la différence du parent biologique qui peut intervenir du coup dans les décisions de justice, mais il n'y a pas de grande difficulté en soi sur ce type de séparation.
Non, pas du tout. Alors, pas de grande difficulté. En tout cas, pas davantage de difficulté qu'une séparation dans les couples hétérosexuels, puisque les séparations sont rarement sans difficulté quand elles arrivent chez un avocat. Mais effectivement, oui, on est sur des situations qui sont très classiques. Si on a envie de se faire la guerre, on se fait la guerre. Si tout va bien, tout va bien. Mais en tout cas, il n'y a pas de spécificité particulière quand le couple a établi la filiation de l'enfant à l'égard des deux parents.
Par contre, effectivement, là où on va rencontrer des difficultés, c'est dans le cadre d'un couple marié ou non marié, d'autant plus puisque dans ce cas-là, la filiation n'est pas établie, mais donc dans le cadre d'une filiation non établie, ce qui peut arriver dans le cadre de couples mariés qui n'auraient pas eu le temps du fait du délai ou qui n'aurait pas pris le temps de déclarer, enfin de mettre en place l'adoption.
Exactement. Ce sont les situations qui sont les plus difficiles et les plus tragiques parfois. Effectivement, on est dans la situation soit d'un couple non marié, dans ce cas-là, comme vous l'avez dit, la question ne se pose pas. Pour qu'on puisse donner le consentement de volontaire, il faut être marié. Donc, pas de mariage, pas de consentement et pas d'adoption. Ce cas-là, la question ne se pose pas. Pour un couple marié, alors on a eu toutes les situations, on a eu le couple marié qui n'a pas du tout entamé les démarches et qui se sépare avant même que la mère légale ait pu donner son consentement devant le notaire, et si elle ne le fait pas, c'est bien que voilà, elle n'a pas envie de le faire et on ne peut pas la forcer. On a eu les situations on peut jamais forcer le parent légal à donner son accord. Non seulement on peut pas le forcer, mais une fois qu'il a donné son accord, il y a un délai de 2 mois pour avoir la possibilité de changer d'avis. Donc effectivement, c'est un droit absolu du parent légal d'accorder ou pas l'adoption à son conjoint. Donc on a eu le cas où le consentement n'avait pas été donné, on a eu aussi le cas où le consentement a été donné, mais justement durant ce délai de 2 mois, le parent légal a rétracté son consentement, donc en disant au notaire, finalement je ne suis plus d'accord, et là encore, le droit... Et alors, j'ai un petit bémol, mais le droit est quasi absolu, le parent légal a le droit de changer d'avis pendant ce délai-là. Et on a aussi eu le cas où le parent légal change d'avis après l'expiration du délai de 2 mois et plus ou moins en cours de procédure.
Donc effectivement, et ça, c'est possible.
Oui, c'est possible. Alors, ce n'est pas pour autant que le juge derrière va refuser l'adoption en disant « bah oui, mais madame a changé d'avis ». Non, le juge statuera toujours en fonction de savoir si les critères légaux sont réunis, et les critères légaux, c'est un mariage, un consentement donné, une seule filiation initiale pour que l'adoption soit plénière, et puis surtout l'intérêt de l'enfant. Donc le juge statue sur l'intérêt de l'enfant.
Mais, oui, effectivement, c'est ce qu'on avait vu avec Maître Berdeau, c'est que l'intérêt de l'enfant prime dans la plupart des procédures.
Exactement, l'intérêt de l'enfant prime, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand les conditions légales sont réunies, aujourd'hui, pour un parent légal qui viendrait, et j'ai eu le cas il y a peu de temps, qui viendrait à l'audience en disant « oui, effectivement, c'est un projet commun, mais on se sépare et moi, je ne suis plus d'accord », je peux vous dire que les parents légaux sont très mal reçus par les juges qui nous disent « mais attendez, vous avez été en couple, vous avez voulu cet enfant ensemble, vous avez donné votre consentement, les 2 mois sont passés, donc tout est réuni et aujourd'hui, vous venez nous dire que vous n'êtes plus d'accord, mais en gros, non, vous vous séparez, vous êtes en colère, il n'y a pas de souci ». Mais par contre, vous ne pouvez pas dire que l'adoption ne doit pas être prononcée parce que ce n'est plus dans l'intérêt de l'enfant alors qu'il y a 6 mois, ça l'était.
Oui, c'est clair que c'est logique que ça semble malvenu, quoi.
Oui. Et c'est vrai que les audiences se déroulent toujours en fonction aussi du juge qu'on a en face. Mais aujourd'hui, de plus en plus, quand le parent légal adopte cette attitude, moi, je défendais l'adoptante, la maman sociale. Mais effectivement, ce sont des situations où les juges prennent position assez favorablement en disant non, l'adoption sera prononcée puisque les conditions sont réunies. Donc, il y a cette possibilité toujours, à tout moment, jusqu'à ce que l'adoption soit définitive et qu'il n'y ait pas eu d'appel, parce qu'on a aussi le cas de l'adoption prononcée et « ah, mais tiens, on se sépare, je vais faire appel de la décision ».
Ah oui, j'avais pas pensé à ça.
Oui, bien sûr, tout est toujours possible. Tant qu'on n'a pas l'acte de naissance de l'enfant avec les 2 filiations transcrites, tout est toujours possible. Donc, effectivement, on a la situation de « ouais, mais on se sépare ». On est en train de se séparer, le jugement d'adoption tombe, et ben je vais faire appel de ce jugement d'adoption. Donc ça n'aboutira pas, la cour d'appel ne prononcera à nouveau l'adoption, mais en attendant, on peut avoir 1 an de délai durant lequel, pour le parent qui n'a pas sa filiation, les choses sont assez difficiles.
Oui, puis ça fait long, quoi.
Oui, c'est très, oui, déjà que la procédure est très longue en soi, mais effectivement, ça finit par faire très, très long. Et en fait, la situation qui est la plus critique et la plus difficile, c'est je suis maman ou je suis papa d'un enfant sans être sur son acte de naissance et sans qu'il y ait d'adoption. Et soit le consentement n'a pas été donné, soit il a été rétracté. Et dans ces cas-là, et aucune procédure d'adoption n'est en cours, eh bien, dans ces cas-là, je ne peux pas devenir le parent légal de mon enfant. Et découle tout un tas de conséquences.
Et ça, c'est vérifié. En fait, il n'y a aucun moyen de devenir le parent de cet enfant si, à la base, il n'y a pas eu de consentement du parent légal.
S'il n'y a pas eu de consentement, il n'y a pas de possibilité. Alors, il y a une exception qui est prévue par le Code civil, qui est celle de si le parent légal se désinvestit de l'enfant, ne s'en occupe pas, ce n'est évidemment jamais le cas. Et il y a eu une jurisprudence qui est toute récente, c'est le tribunal judiciaire de Lille, qui a prononcé une adoption dans un cas où il y avait plusieurs enfants, de mémoire, sans dire de bêtises, mais il y avait plusieurs enfants, au moins deux, je pense. Une adoption avait déjà été prononcée et la mère légale n'a pas voulu donner son consentement, et bien le tribunal a outrepassé son refus. Mais il y avait des circonstances, exactement. Ce n'était pas le premier enfant, c'était une fratrie, il y avait des circonstances particulières. Mais si aujourd'hui, aucune procédure n'est déposée, je me sépare, je suis mère sociale, ma conjointe n'a pas donné son consentement à l'adoption, eh bien, je n'ai pas de solution. En tout cas, pas pendant la minorité de l'enfant, parce que quand l'enfant sera majeur, l'adoption simple redevient possible. Mmh. Donc ça, c'est aussi quelque chose... Moi, c'est une information que je donne tout de suite aux mamans sociales qui viennent me voir quand elles sont en détresse parce qu'il y a une situation de rupture et parce qu'il y a parfois une rupture des liens avec l'enfant. La première chose, c'est effectivement là, tout de suite, on va voir ce qu'on peut mettre en place, mais surtout, rassurez-vous, plus tard, le consentement de la mère légale ne sera plus, ne sera plus indispensable, mais ne sera plus nécessaire du tout. C'est-à-dire que l'adoptante ou l'adoptant et l'enfant devenu majeur suffiront.
D'accord. Et dans le cadre d'une filiation du coup non établie, est-ce qu'on peut quand même statuer sur un droit de garde éventuellement ?
Alors, oui, en fait, c'est une procédure qui est spécifique. Par exemple, je prends juste l'exemple, si c'est dans le cadre d'un divorce, eh bien, la procédure, ce qu'on appelle le droit de visite du tiers, c'était autrefois le droit de visite du grand-parent qui a été élargi pour le parent social, eh bien, c'est une procédure spécifique avec représentation obligatoire par avocat. C'est une procédure qui n'entre pas, qui ne peut pas se joindre à la procédure de divorce. C'est-à-dire que, par exemple, dans une telle situation, quand il y a un divorce et une seule filiation, aussi absurde que ça puisse paraître, on va devant le juge pour statuer sur le domicile conjugal, sur les attributions, sur les relations entre les époux ou les épouses. Mais quand bien même l'enfant existe, le juge n'est pas compétent pour statuer. Donc on est obligé de mettre en place deux procédures parallèles, si le couple est marié, bien sûr, s'il ne l'est pas, évidemment qu'il n'y a pas de divorce. Si le couple est marié, on a le divorce d'un côté, donc c'est vraiment c'est lunaire parce que l'enfant est là, le juge du divorce normalement il statue sur tout, mais à partir du moment où il n'y a pas de double filiation, eh bien, le juge du divorce ne peut pas statuer sur notamment le droit de visite du parent social. Donc c'est une procédure qui est à part, qui est assez longue, donc ce qui rend les choses difficiles quand il y a une rupture des liens ou quand la continuation des liens est difficile. Sachant qu'on peut essayer de mettre en place une procédure d'urgence, mais la procédure d'urgence est soumise à l'autorisation du juge. Donc si on arrive devant le juge avec notre histoire et que le juge nous dit « moi, je ne pense pas qu'il y ait urgence », eh bien, on part pour un an et demi de procédure. Et pendant cette période-là, eh bien, la mère légale fait absolument ce qu'elle veut, tant qu'aucun juge ne la contraint. À partir du moment où il n'y a pas de lien de filiation, elle fait ce qu'elle veut. Elle peut imposer une rupture des liens. Si le juge n'est pas saisi ou si le juge n'a pas statué, eh bien, on n'a pas d'autre solution.
Oui, mais là, du coup, on n'est plus du tout dans l'intérêt de l'enfant. Donc, effectivement, il y a une urgence et le juge est à même donc de statuer.
Bien sûr. Et la plupart du temps, quand on met en place ces procédures d'urgence, on les obtient. Maintenant, il arrive parfois que le juge estime que si, par exemple, les parents sociaux prennent du temps, ça arrive parfois, on ne veut pas brusquer les mères sociales sont souvent dans une situation, quand il y a une séparation et qu'il n'y a pas de lien de filiation, de « je veux surtout pas la brusquer parce que je sais qu'à tout moment, elle peut décider de m'enlever mon enfant. »
Oui, et c'est ça en fait, c'est le gros risque.
Exactement. Donc elles sont dans une situation de prendre un petit peu ce qu'on leur donne. Et puis si on leur donne plus rien, ça arrive parfois que oui, mais là, elle m'a dit que peut-être le mois prochain, et en fait, qu'elle se fasse emmener dans un espoir qui se continue, et finalement, de se réveiller 6 mois plus tard en disant, mais en fait, maintenant, il faut que j'agisse, parce que là, je vois que ça n'aboutira pas. Et face à ça, le juge peut soit se dire, bah oui, effectivement, attendez, ça fait 6 mois, c'est beaucoup trop long, vite, faites, oui, je vous autorise à mettre en place une procédure d'urgence. Mmh. Le juge peut aussi se dire, bah, ça fait déjà 6 mois en fonction de l'âge de l'enfant, c'est déjà un peu long, en quelque sorte, on n'est plus à ça près, ce qui est terrible, mais ça peut arriver. Ce n'est pas, on n'a pas de garantie d'obtenir cette procédure d'urgence.
D'accord, ok.
Et quelle que soit la procédure qu'on mette en place, la longue ou la rapide, si on peut les appeler comme ça, mmh. Eh bien, ensuite, on va demander, on va expliquer au juge eh bien, pourquoi est-ce qu'il faut maintenir les liens entre l'enfant et cette personne qui est le parent. Et donc, les conditions, c'est d'avoir cohabité avec l'enfant pendant une durée qui est longue, mais qu'on estime, que le juge estime s'il a été assez long ou pas, de s'être occupé de l'enfant, d'avoir contribué, d'avoir financé des choses, etc., etc. Et toujours, bien sûr, que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. Et ouais. Dans ce cadre-là, le critère du projet parental est très important.
D'accord. Donc, il faut pouvoir justifier de ce projet parental.
Exactement. Ce n'est pas, le Code civil ne prévoit pas l'existence du projet parental, c'est-à-dire que les conditions de l'article ne listent pas l'existence d'un projet parental commun, mais toutes les décisions, toute la jurisprudence se fondent sur l'existence de ce projet parental commun. Donc, effectivement, eh bien, on explique que lorsque l'enfant est né d'une PMA réalisée à l'étranger, c'est un projet de couple, qu'elles y sont allées ensemble, qu'il y a eu un suivi pendant la grossesse. Enfin, on essaie de raconter ce qui semble tellement évident, mais qui, dans ce cadre-là, sera très souvent nié par la partie adverse.
Oui, évidemment.
Évidemment.
Évidemment. Et donc, là, on parle bien. Enfin, on a établi les difficultés qu'on pouvait rencontrer dans le cadre d'une non-filiation, on va dire, dans le cadre d'un couple marié. Lorsqu'il n'y a pas de mariage, donc on se retrouve dans le même cas, mais en plus de ça, je pense que le fait qu'il n'y ait pas de mariage, enfin, ne permet pas du tout d'envisager pas les mêmes droits au final.
Alors, c'est pas tant le critère du mariage qui va donner ou pas des droits, c'est vraiment l'investissement du parent à l'égard de l'enfant. Soit on n'arrive pas à mettre en place une procédure d'adoption, dans ce cas-là, c'est le projet parental, l'investissement du parent. Effectivement, le mariage permet de ne pas pouvoir laisser la mère légale dire. Parce que c'est une argumentation qu'on retrouve de temps en temps, ce que je trouve toujours très très surprenant, mais certains l'adoptent, dire oui mais non, c'est pas vraiment un projet de couple, on était ensemble, mais ce bébé c'est moi qui le voulais. D'ailleurs elle le voulait pas, puis elle voulait pas le porter, puis ça l'intéressait pas trop, c'est moi qui ai fait les trajets, mais on était en couple, mais ça n'était pas si sérieux. L'existence d'un mariage suppose d'être en couple de façon durable et laisse penser que ce projet était bien évidemment un projet de couple. Donc de toute façon, le mariage va consolider les choses, mais on est plus au niveau de la preuve qu'au niveau des droits qui seront octroyés ou non. Ouais, exactement.
Après, c'est vrai que la difficulté là, qu'on évoque, pardon, c'est que on parle souvent si la filiation n'a pas été établie, c'est que soit on était dans le fameux délai des 6 mois avant le dépôt du dossier d'adoption au moment de la rupture, soit les enfants sont très régulièrement considérés comme étant en bas âge, donc une durée de vie prouver que la durée de vie a été suffisante avec l'enfant n'est pas simple.
Non, c'est pas simple, et puis c'est absolument à l'appréciation du juge. Donc on a de très belles décisions où une cohabitation d'un nourrisson de sa naissance à ses 3 mois était suffisante pour obtenir un droit de visite, ce qui est assez rare, mais on a pu l'obtenir. Et puis il y a des décisions où on se retrouve dans des situations tragiques parce qu'effectivement il y a une séparation, il y a une obstruction absolue de la mère légale, et quand bien même une maman a pu voir naître son enfant, s'en occuper pendant 3 ans, 4 ans, et ensuite qu'il y ait une séparation qui a duré 1 an et demi, et pour le cas dans lequel je pense, entre-temps, la mère légale avait refait sa vie et eu un autre enfant, et bien dans ces cas-là, par exemple, le juge a pu considérer que la petite fille avait en quelque sorte un nouveau cadre familial, et qu'au bout 1 an et demi, il ne fallait pas la perturber en faisant revenir dans sa vie la personne qui, certes, l'avait vue naître, certes, l'avait élevée, certes, s'était occupée d'elle comme sa fille, la fille qu'elle était, mais pas juridiquement, jusqu'à ses 3 ou 4 ans. Mais que dans l'intérêt de l'enfant, il fallait préserver cette petite fille du conflit Et donc, il valait mieux lui faire perdre sa filiation qui n'était pas sécurisée, mais en tout cas, faire perdre le lien avec la personne qu'il avait vu naître au profit de la nouvelle famille qui avait été créée parce que c'était un cadre qui était plus sécurisant.
C'est terrible comme décision.
C'est des décisions qu'on a encore, malheureusement. C'est ce que je dis souvent et qui est bien normal, mais la justice, c'est aussi juge dépendant. Et donc, et bien voilà, un juge peut considérer qu'un nourrisson qui a vécu 3 mois de sa naissance à ses 3 mois avec l'une de ses mamans, c'est suffisant pour que le lien ne puisse pas être rompu. Et un autre juge pourra considérer que 3 ou 4 ans de vie commune, à partir du moment où il y a une rupture pendant un an et demi, eh bien ça perturberait trop l'enfant de faire revenir cette personne dans sa vie.
Et dans ce cas, la décision est révocable en cas d'appel, enfin, si on fait appel ?
Oui, on peut tout à fait interjeter appel. La difficulté, c'est que dans ce cadre-là, eh bien, la décision s'applique pendant la durée de l'appel et que là encore, les procédures d'appel sont des procédures qui sont très longues. On parle de très facilement 2 ans et donc plus le temps passe. Mon conseil aux mamans sociales, c'est toujours le temps joue contre vous. Plus le temps va passer avec les séparés, il ne faut pas laisser la rupture des liens ni exister et surtout pas perdurer. À partir du moment où on sent qu'il y a une rupture des liens, où on sent que voilà, quelque chose se trame, que je devais voir mon enfant, mais finalement, elle a annulé, et puis ça me dit que ça sera le mois prochain, mais je sens bien que ça ne va pas, il faut agir tout de suite, et surtout, il ne faut pas avoir peur de brusquer ou de s'imposer en se disant « Oui, mais si je tape du poing sur la table, et ben dans ces cas-là, je ne reverrai jamais mon enfant, mais au contraire, il faut taper du poing sur la table, il faut saisir un avocat dans le but de saisir un tribunal pour être représenté, pour être défendu, parce que c'est la seule solution pour contraindre la mère légale ou le père légal, bien sûr, à remettre l'enfant. Et une fois que la décision est définitive, est appliquée, et bien tout simplement, dans ce cadre-là, sans qu'il y ait de filiation, et bien ma décision, c'est un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, ce qui revient exactement au même que la première solution. S'il y avait une filiation, l'amplitude du droit de visite peut tout à fait être celui-ci.
Mmh. Parce que là, on a plus à perdre finalement qu'à gagner à attendre. En pensant qu'on perdra moins à attendre, finalement, on a plus à perdre à attendre.
On a toujours plus à perdre à attendre, non seulement parce qu'on peut se retrouver dans des situations de rupture des liens qui sont consolidées, et également puisque quand bien même la situation n'est pas si terrible et on arrive plus ou moins à se mettre d'accord, on arrive à grappiller quelques jours par-ci par-là, il faut toujours imaginer que sans décision de justice, le parent social est dans une situation qui est précaire. À tout moment, que ce soit une dispute, que ce soit je refais ma vie, que ce soit je déménage, n'importe quel événement pourra remettre en cause la situation qui est actuelle, et tant que ça n'est pas garanti par un juge, eh bien, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter.
Oui.
Donc,
le jugement est impératif.
Il est impératif, et il peut être amiable si on est d'accord, mais tout se passe bien. Si je suis maman sociale et que je m'entends très bien avec mon ex-compagne, qui trouve ça tout à fait normal que je vois mon enfant un week-end sur deux, la moitié des vacances, voire plus, eh bien, tant mieux. C'est une bonne chose, mais par contre, faisons-le ensemble. On ne se fait pas la guerre, on ne vient pas introduire du conflit là où il n'y en a pas, surtout pas. Par contre, dans l'intérêt de tout le monde et en premier lieu dans l'intérêt de l'enfant, il faut voir la situation consolidée par une décision de justice.
Mmh, d'accord. Donc là, on a évoqué les cas où l'enfant est né.
Oui.
Quid de la séparation durant la grossesse ?
Ah ben, la situation de séparation pendant la grossesse, elle est d'autant plus tragique nécessairement, puisqu'on est dans la situation la pire, à savoir évidemment pas d'adoption, pas de consentement, l'enfant n'est pas né, donc je passe évidemment le tragique de ne pas pouvoir être là pour la naissance de son propre enfant, mais c'est pas juridique, mais c'est là, évidemment la première chose à laquelle je pense.
Évidemment.
Et d'un point de vue juridique, eh bien, ça complique les choses, puisque le critère de la cohabitation n'existe pas, par définition, et pour autant, je n'ai pas eu le cas d'ailleurs, je serais curieuse de savoir s'il y a eu beaucoup de décisions de séparation durant la grossesse, j'y pense comme ça, mais je suis persuadée qu'à partir du moment où on montre, où on saisit le juge en urgence et où on démontre au juge qu'il y a un projet parental commun, que cet enfant est né d'un projet de couple entre Madame X et Madame Y, et que si aujourd'hui Madame Y a décidé de partir alors qu'elle est enceinte, ce n'est pas pour autant que Madame X ne doit pas avoir de lien avec l'enfant. Je suis sûre que ces décisions s'obtiennent. malgré l'absence de vie commune, puisqu'effectivement, là encore, le projet parental commun est très important.
Mmh. Alors là, on a évoqué beaucoup de cas, en tout cas, pour lesquels on a présagé que la conception avait eu lieu dans le cadre de la PMA.
Oui.
Maintenant, on sait qu'il y a des conceptions qui ont lieu dans le cadre de l'insémination artisanale, donc qui, pour le coup, est moins explicable à un juge, puisque interdite, en vrai.
Oui.
Comment ça se passe dans ce cadre-là ?
Alors, dans ce cadre-là, on a rarement intérêt à l'évoquer quand on est le parent social. C'est-à-dire que, alors clairement, quand on est devant le juge aux affaires familiales, alors effectivement, dans le cadre de l'adoption, on ne va pas expliquer qu'il y a eu insémination artisanale, on ne montre surtout pas dans ce genre de détails. Maintenant, mm-hmm. quand on vient devant le juge aux affaires familiales, devant le tribunal pour une décision soit de garde classique, soit de droit de visite parce qu'il n'y a pas de lien de filiation, la question du mode de conception devient un petit peu secondaire, pour le juge en tout cas. Mais il peut devenir un petit peu moins secondaire si la mère légale vient expliquer que oui, non mais attendez, il y a un donneur quelque part et peut-être que ce donneur pourrait revendiquer une filiation et une paternité à l'égard de l'enfant. Et effectivement, oui. l'existence d'un donneur connu peut tout à fait rendre beaucoup plus compliqué l'obtention d'un droit de visite ou de droit de la mère sociale à l'égard de l'enfant. Puisque le juge un peu frileux peut se dire, bah oui, effectivement, s'il y a un monsieur quelque part, si demain il vient faire une reconnaissance de paternité, chose qu'il peut faire puisqu'il en a absolument le droit, eh bien cet enfant aura deux parents. Il aura déjà deux parents qui, a priori, ne sont pas en couple, ne vivent pas ensemble, donc ça pourrait déjà être compliqué. Venir rajouter dans la vie de cet enfant une troisième personne, quand bien même c'était la personne à l'origine de sa naissance, ça peut donner envie au juge de restreindre un petit peu les droits de la mère sociale. Et donc, quand on est du côté de la mère sociale, on n'a pas tellement intérêt à venir expliquer au juge qu'il y a une insémination artisanale.
Non, c'est vrai, mais pour prouver que c'est un projet de couple, des fois, il faut se mouiller un petit peu. Enfin...
Oui, mais il y a tellement de façons de prouver que c'est un projet de couple. Il y a des échanges d'emails, il y a des recherches, il y a énormément de façons de prouver ça. Mm-hmm. Sans forcément avoir besoin d'entrer. Alors, évidemment que quand c'est une PMA et qu'on a une facture avec les deux noms, c'est un boulevard. Mais quand c'est une conception artisanale avec une insémination, avec un donneur connu, on peut le mentionner. Mais moi, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, on trouve d'autres solutions. Des échanges de mails, des échanges de textos, tous les moyens sont bons pour prouver que c'est un projet parental commun. Et en réalité, ça n'est pas, quand c'est le cas, ça n'est pas si difficile à prouver.
D'accord. Et je me posais aussi la question, et je pense que ça peut se poser, parce que donc là, on a évoqué les cas de PMA qui sont relativement récents, finalement, enfin du boom de la PMA. On a des enfants qui sont issus du mariage pour tous, on va dire.
Bien sûr.
Sur les générations précédentes, donc maintenant on a des enfants qui vont avoir entre 12 et 12-15 ans, peut-être même 18, hein, qui sont encore en tout cas chez leurs parents, dans le cadre d'une séparation où effectivement la filiation ne serait pas prononcée.
Oui.
Les enfants, normalement, à partir d'un certain âge, ont le droit de choisir leur lieu de résidence et leur rythme d'alternance, de garde alternée, non ?
Oui, alors on va dire qu'ils ont leur mot à dire. C'est pas tout à fait la même chose que le droit de choisir stricto sensu, mais en tout cas, effectivement, ils peuvent demander à être entendus et le juge peut tout à fait écouter ce qu'ils ont à dire. Si l'enfant a 15 ans, il est tout à fait apte de dire qu'il préfère être chez tel parent parce que c'est plus près de l'école, parce qu'il est plus présent ou je ne sais quoi.
Et dans ce cas-là, du coup, le parent social aurait peut-être même une plus grande légitimité puisque c'est l'enfant qui en parlerait.
Alors, oui et non. Le parent social aurait plus de légitimité si on était dans la situation d'un couple marié, si on était dans la situation d'une double filiation. C'est-à-dire que, à situation égale, bah, effectivement, si l'enfant dit je veux vivre chez telle personne, eh bien, le juge, sauf si c'est très très compliqué, mais en général, le juge peut tout à fait l'écouter. Là, on est vraiment dans une procédure qui est particulière. Donc, l'enfant, il aurait son mot à dire. Effectivement, un enfant de 15 ans qui est au cœur d'un débat avec une procédure sur un droit de visite, eh bien, l'enfant peut tout à fait être entendu. Et a son mot à dire. Donc oui, on l'entend maintenant, cette procédure ne peut pas non plus tout permettre. Par exemple, c'est un tout petit peu technique, c'est qu'on estime que la résidence alternée, c'est une modalité d'exercice de l'autorité parentale. C'est-à-dire que c'est une classification dans le code civil, il y a un thème, l'autorité parentale, et en dessous, c'est la résidence alternée. Donc l'analyse qui en est faite, c'est la résidence alternée n'est possible que si on a une autorité parentale. En ce moment, en tout cas, la jurisprudence fonctionne comme ça, jusqu'à ce que ça change, et ça sera une très bonne chose. Mais donc, par exemple, dans ce cas-là, l'enfant qui a 15 ans avec les parents qui se séparent et pas de filiation, sauf si une procédure de délégation d'autorité parentale a été faite, il n'y a pas d'autorité parentale. Donc, l'amplitude du temps passé avec la mère sociale sera évidemment élargie le plus possible si l'enfant en fait la demande en disant « mais oui, mais moi, je veux passer du temps avec elle ». Donc ça, c'est là où la réponse est oui. Et le fait que la réponse est non, c'est que si l'enfant dit « mais moi, je veux résider avec ma maman qui est, in fine, la mère sociale », eh bien, la procédure rend la chose beaucoup plus difficile, puisque si le parent n'a pas l'autorité parentale, ça vient compliquer un petit peu la situation. Donc, un ado qui donne son avis, oui, évidemment qu'il est entendu, mais pour autant, ça ne permet pas tout non plus, malheureusement.
D'accord. Et on a d'autres configurations de famille dans les auditeurs du podcast, puisqu'on traite quand même beaucoup aussi de la parentalité alternative au global. On a des cas de séparation qui peuvent engager la vie de l'enfant, en tout cas l'organisation de la vie de l'enfant, dans le cadre des familles en coparentalité. Donc, que ce soit un couple de parents où il y a seulement deux parents, un homme et une femme qui décident en coparentalité de concevoir un enfant. Il va y avoir aussi le cadre de trois parents, donc un couple qui conçoit un enfant avec un autre parent, ou carrément le cas de deux couples qui conçoivent un enfant. Ouais. Dans l'ensemble de ces cas, donc, alors le premier cas, évidemment, la filiation est établie de fait, donc pense que les droits qui s'appliquent, voilà, sont les mêmes droits que pour un couple hétérosexuel classique. Mais dans les deux autres cas, comment ça se passe? Quels sont les droits des parents sociaux? À quoi peuvent-ils prétendre dans le cadre d'une rupture dans un des couples, voire carrément d'une rupture entre les deux couples de parents qui ne souhaiteraient plus partager, entre guillemets, la garde de l'enfant?
Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. C'est in fine, la rupture est plus celle de la rupture de l'entente parentale, effectivement. On a le cas de la rupture d'un couple, par exemple, si on est dans le cas de trois ou quatre parents, eh bien, les deux papas ou les deux mamans, c'est plus simple de dire ça comme ça, qui se séparent, n'est pas la même situation que c'est très difficile à expliquer. alors, c'est très simple pourtant, mais j'ai l'impression de faire des schémas dans ma tête et que...
Sans image, c'est plus compliqué.
Exactement, j'ai envie de bouger mes bras. Effectivement, entre guillemets, la pire des situations est la mésentente entre les parents d'une façon générale. Donc, papa d'un côté et maman d'un côté, finalement, ne s'entendent plus du tout. S'ils sont trois, on en enlève un. Et donc, comment les choses se passent? Eh bien, on retourne devant le juge, de toute façon. Quand on arrive au degré de conflit, on doit retourner devant le juge. Et la difficulté majeure, c'est que le papa ou la maman qui n'est pas sur l'acte de naissance de l'enfant, ou les papas ou les mamans, en quelque sorte, n'existe pas pour le juge. C'est quelque chose qui est très violent. Alors, pour autant, on raconte leur histoire, évidemment, que dans la requête ou dans les conclusions qu'on fait à l'attention du juge, donc c'est le document écrit que le juge lira in fine, puisqu'il y a l'audience, mais il y a évidemment ce qu'on écrit, eh bien, on explique la situation. On dit que monsieur est en couple avec monsieur, que madame est en couple avec madame, et que l'enfant est né dans le cadre d'une coparentalité. Mais ne serait-ce que physiquement, ce qui est très difficile, c'est que les audiences en matière familiale se tiennent à huis clos, donc les parents de l'enfant sont dans la salle d'audience qui, la plupart du temps, est le bureau du juge. Eh bien, le parent social, celui qui n'est pas sur l'acte de naissance, il est dans le couloir.
Il ne peut pas le droit d'être présent.
Donc, tout se trame en son absence, ce que moi, je trouve très, très difficile psychologiquement, parce qu'il peut venir à l'audience, on peut attendre dans la salle d'attente ensemble. Par contre, au moment où il faut se lever pour aller se présenter devant le juge, eh bien, il disparaît et il reste dans le couloir. C'est violent et ça représente exactement la difficulté de la coparentalité, puisque le droit n'est pas adapté, le droit ne s'adapte pas aux situations de coparentalité. Pourtant, ça ne serait pas si difficile, mais ce sont des choix politiques, comme tout. Ça a pu être fait notamment dans le cadre de la révision des lois bioéthiques. Non seulement elles ne seront pas révisées, mais en plus, si elles l'avaient été, on a fait le choix d'exclure, de faire évoluer le droit vers plus de coparentalité. Il faut imaginer que l'acte de naissance de l'enfant, ces deux cases, eh bien, une fois que les deux cases sont pourvues, ça n'intéresse plus grand monde. Les personnes qui sont autour n'ont pas tellement leur mot à dire. Donc, effectivement, quand on est dans une situation de séparation de couple parental, eh bien, on va devant le juge et puis on revient dans une situation classique de l'enfant à deux parents, qu'est-ce qu'on fait ? Mais avec un degré de conflit, malheureusement, qui est souvent assez aigu, puisque ce trame, et on voit les difficultés de qui a les droits et qui ne les a pas. Et c'est très difficile à vivre parce qu'une personne qui élève un enfant avec son conjoint ou sa conjointe au quotidien doit pouvoir décider des choix, doit pouvoir avoir son mot à dire. Et finalement, quand on passe d'un point de vue judiciaire, ce choix-là est perdu.
Oui. Et ce qui va encore plus complexifier les choses, c'est la séparation.
Au sein
en
de
plus de ça,
au sein membres du couple. Oui, exactement. Ouais. Voilà. Dans ce cas-là, on revient dans la situation dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un enfant qui, a deux liens de filiation, mais en tout cas pas à l'égard du parent social, et on se retrouve dans la même situation d'avoir à mettre en place cette procédure de droit de visite, qui n'est pas la filiation, mais qui est un droit de visite, alors c'est vraiment terriblement appelé du tiers, parce que ça veut tout dire et rien dire, je trouve ça assez
sensible. Oui, c'est clair.
Ouais, c'est un peu horrible, mais bon, c'est comme ça que le Code civil l'appelle, avec la difficulté supplémentaire de qui est la différence avec notre première hypothèse, qui était l'enfant a deux parents, mais un seul reconnu, l'autre va venir demander, typiquement, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, où là, on a déjà deux parents. Donc, on vient faire une demande supplémentaire. Et donc, le juge, là aussi, peut être tenté de dire, alors, effectivement, monsieur ou effectivement, madame, vous avez cohabité, vous avez participé, mais si déjà, par exemple, on est sur une résidence alternée entre les deux parents, si l'enfant est en bas âge, est-ce que venir, entre guillemets, saucissonner son agenda encore plus en venant donner 2 heures un samedi après-midi une fois par mois, est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt de l'enfant ? Est-ce que, vous voyez, ça peut aussi être difficile pour le juge d'estimer jusqu'où se trouve l'intérêt de l'enfant.
Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est ça qui est vraiment très délicat, c'est que du coup, comme vous le dites, ça saucissonne l'agenda de l'enfant. Et clairement, je pense que de ce fait-là, juste de ce fait-là, les juges ne statuent pas dans le bon sens. Quoi.
Pas toujours, en tout cas. Disons que évidemment qu'on obtient des droits de visite, bien sûr, mais pour peu qu'il y ait 4 parents, imaginez juste la situation de 2 papas, 2 mamans, où chacun des 2 couples se sépare. C'est-à-dire que l'enfant se retrouve...
Malgré
tout le monde, oui, voilà, c'est ça. Ça n'est pas possible. C'est-à-dire que le juge statuera toujours à l'égard des 2 parents principalement. Et ensuite, cette procédure qui n'est pas la même viendra ou pas donner des droits à chacun des coparents. Mais ça devient difficile parce que c'est des situations qui ne rentrent pas dans les cases. Et le droit français adore les cases.
Donc, oui, c'est ça.
Voilà, dès qu'on en sort un petit peu, on se heurte à des difficultés.
Oui. D'accord. Bon, c'est vrai que ces situations-là sont vraiment complexes et je pense que c'est important qu'on explique un petit peu en amont quand on prend ce genre de décision les risques aussi, parce que mine de rien, on le sait, tout peut bien fonctionner un temps et tout peut se retourner assez rapidement. Donc il vaut mieux connaître l'ensemble des risques qu'on... oui, c'est ça, l'ensemble des risques qu'on peut mettre en...
Oui, qu'on peut courir et puis simplement savoir quelle est la situation, en fait. C'est-à-dire que quand on sait, avant de concevoir l'enfant ou en cours de grossesse, mais typiquement pour la coparentalité, il faut quand même se poser la question avant, qui peut avoir de droit, qui peut ne pas en avoir, est-ce qu'on est d'accord avec ça et comment les choses vont se passer, ça permet aussi de vivre les choses un peu plus sereinement quand... je suis informée que si je ne suis pas sur l'acte de naissance, j'ai une situation qui est précaire. Et c'est très important parce qu'il y a encore, alors de moins en moins parce que les gens s'informent, mais on voit encore des personnes qui ne sont pas du tout informées de leurs droits, qui, je pensais que, mais pourquoi j'étais là, j'ai coupé le cordon, comment est-ce que c'est possible qu'on me dise que je ne suis pas sa mère ? Pas sur l'acte de naissance. Pas de filiation égale, juridiquement en tout cas, ne pas être reconnu comme un parent. C'est toujours important de savoir où on met les pieds.
Voilà, c'est vrai que savoir, ça permet de faire des choix qui sont éclairés, ça permet surtout de savoir vers quoi se retourner et de border les choses pour la suite, en fait,
ouais,
pour l'avenir. C'est vrai que c'est des choix qui s'offrent à nous. C'est vrai qu'on a quelque part la chance d'avoir un panel de choix qui s'offre à nous pour... concevoir nos familles, mais par contre ces choix, ce panel n'est pas reconnu légalement par le droit français.
Et pourtant le droit français doit s'adapter évidemment à l'évolution des familles, mais ça malheureusement encore une fois c'est pas forcément n'est pas forcément à l'ordre du jour, mais oui, dans ce panel de choix doit entrer évidemment en considération eh bien, la situation juridique. Typiquement, ben voilà, je suis un couple de femmes, je suis un couple d'hommes, je veux un enfant, vers quel type de parentalité est-ce que spontanément j'ai envie de me diriger? Et par exemple, ben voilà, je suis deux mamans, pourquoi pas une coparentalité avec un papa? Et savoir que c'est très bien et il n'y a pas de problème et toutes les parentalités sont très bien tout autant qu'elles sont. Par contre, juridiquement, ça a des conséquences. Si je suis un couple de femmes, je veux un enfant, mais je veux que toutes les deux on soit déclaré comme mère juridique de l'enfant et qu'il y ait une égalité de droit entre nous, eh bien, je ne peux pas me diriger vers une coparentalité où il y aura aussi déjà un père sur l'acte de naissance parce que ça, ça n'est pas extensible. Mmh. Donc, c'est vrai que dans le choix, effectivement, on en a la possibilité d'avoir un large panel, mais dans ce panel, il faut inclure tout ce qu'on connaît déjà et sur lesquels, toutes les notions sur lesquelles je n'ai évidemment pas du tout mon mot à dire, mais sur la partie juridique, je pense qu'il faut vraiment inclure la partie juridique dans les réflexions.
Oui, complètement. Et puis c'est vrai que je fais une erreur en disant qu'on a un large choix. Oui, les couples de maman, on a un large choix.
Bien sûr.
Par contre, les couples de papa, clairement, le choix est beaucoup plus restreint et pour le coup encore plus une question financière. Donc je pense que la coparentalité pour eux est un vrai choix, enfin en tout cas une vraie piste pour concevoir leur famille.
Bien sûr.
Et c'est surtout à eux que je pense quand je me dis que bon, il faut vraiment qu'ils soient éclairés sur les risques qu'ils encourent. Alors évidemment, il y a pas que les risques, il faut pas penser que à ça.
Pas du tout, mais il faut y penser et alors c'est terrible, mais il faut y penser d'autant plus quand on est du côté des papas. Je pense que, alors j'ai une vision peut-être un peu pessimiste, mais je pense que le droit français est peut-être le seul domaine où il y a une discrimination encore à l'égard des hommes, c'est-à-dire que quand on est le papa, il faudra toujours, en tout cas pour l'instant, il faut se battre plus que quand on est la maman.
Donc quand on est et c'est valable dans tous les couples, enfin dans tous les cas.
Exactement, il faudra toujours se battre plus que quand on est les deux mamans. Donc quand un couple d'hommes a un désir d'enfant, souhaite fonder une famille, effectivement, les options sont bien plus restreintes que pour les couples de femmes. Et parfois, d'ailleurs, la coparentalité devient une solution plus qu'un choix, parce que le choix est restreint. Et quand on est le papa, il faut surtout faire attention, il faut être conseillé, et il ne faut pas hésiter, là encore, à faire défendre les droits, parce qu'à partir du moment où on est la partie qui a le moins de droits ou qui sera la moins entendue, eh bien, il ne faut surtout pas avoir peur de se faire entendre.
Oui, voilà. C'est clair que je pense que dans ce genre de cas-là, précisément, il faut vraiment border la
exactement. Encore bien même. Oui, et tout en sachant que on peut avoir tout bordé, tout prévu, tout écrit. Si l'un change d'avis, de toute façon, le juge ne regardera que l'intérêt de l'enfant. On peut avoir fait des chartes de coparentalité, on peut avoir écrit la main sur le cœur que non, je ne demanderai jamais à ce que la résidence soit fixée à mon domicile. À tout moment, je peux aller voir le juge et dire le contraire, et le juge m'écoutera. Il ne me dira pas, attendez, vous avez signé une charte de coparentalité, vous avez dit l'inverse. Ça, il pourra tout à fait la lire, mais le juge statuera en fonction de l'intérêt de l'enfant à l'instant T. Donc, il faut vraiment avoir toujours ça à l'esprit.
Mmh. Donc, je pense qu'il faut, ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est qu'il faut toujours... dans le cadre de la conception d'une famille, quel que soit le couple dans lequel on la conçoit, réfléchir aussi à la question du droit, la question de nos droits par la suite, pour envisager les choix de conception qui s'offrent à nous et sur lesquels on est le plus en accord à l'instant T, puisqu'il ne faut pas oublier que les désaccords peuvent arriver relativement vite et malheureusement, dans nos situations à nous, ils peuvent être tragiques.
Je suis tout à fait d'accord. Rien d'autre à ajouter, c'était parfait.
Impeccable alors. Je vous remercie beaucoup Maître Duret de nous avoir accordé votre temps pour traiter de ce sujet qui est hautement sensible et qui hélas souvent n'est abordé qu'une fois qu'on est dans la situation de la séparation. Je pense que notre épisode va vraiment éclairer des lanternes dès aujourd'hui et j'espère qu'il permettra d'anticiper des situations dramatiques, notamment en termes d'adoption si on a la possibilité d'avoir accès à l'adoption, mais qu'on compresse au maximum le délai entre la naissance de l'enfant et le dépôt du dossier d'adoption, puisque on a la preuve par l'exemple que il peut se passer des choses dramatiques qui font que une des mamans peut perdre le droit de visite sur son enfant. Donc voilà, aujourd'hui je pense que c'était vraiment très important d'aborder ce point-là. Et encore une fois, je vous remercie parce que vous avez été très claire, très pédagogue.
Tant mieux. Et merci à vous pour l'invitation. J'étais ravie.
Je vous en prie et je pense qu'on se retrouvera pour d'autres épisodes.
À très bientôt alors. Au revoir.
À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode, ô combien difficile mais tellement nécessaire. Et ce n'est pas l'actualité du moment qui va le démentir. L'actuel vote au Sénat de la nouvelle loi bioéthique peut apporter une avancée majeure dans la sécurisation de nos familles. Si cet épisode vous a plu et ou qu'il peut concerner quelqu'un ou apporter des réponses à une personne de votre entourage ou peut-être même de l'entourage de votre entourage, n'hésitez surtout pas à le partager, à le diffuser, à le faire connaître. Cela fera aussi connaître le podcast et vous savez comme il est important de gagner en visibilité pour pouvoir continuer à avancer sur ce podcast. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Alors a priori pas toutes, mais déjà sur Apple Podcasts, ça peut être super et un petit commentaire qui me fait toujours chaud au cœur. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour partager avec vous une de ces fameuses histoires de séparation qui finit bien. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. Josephine, even when my soul's an amputee and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessionals, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.